Bonjour à tous, c'est François au micro, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saga de l'histoire du rock avec votre émission 15 on the Rock. Déjà la quatrième année que l'on partage dans le sillage des plus grands groupes de rock et de hard entre la fin des 60s et le début des 80s. Précisément pour la quinzaine d'années bénies, entre 68, l'Electric Ladyland de Hendrix ou le Led Zepp 1 qui sortent cette année-là, et 83, le chant du cygne du meilleur du rock, britannique et américain, et je pense en 83 donc aux ultimes bons albums de Thin Lizzy, je pense à l'excellent Thunder and Lightning, ou encore les très bons derniers disques de Blue Oyster Cult au début de cette décennie. Après 83, sous l'influence de Metallica, de Slayer et de tant d'autres, le hard s'accélère, devient le thrash metal, un summum de décibels et de violence qui ne nous intéresse absolument plus. 15 on the Rock, c'est donc pour les 15 années 68-83. Allez, on démarre ce voyage musical avec l'une des premières bandes qui fait le pont entre le rock purement psyché et un son qui ouvre la voie du hard, c'est Iron Butterfly. À l'origine, des gars de San Diego qui s'installent en 67 à Los Angeles. Le groupe y perce, notamment pour sur scène, un son lourd et puissant. En 68, prétendument sur LSD, son chanteur, Doug Engle, écrit le single « In a Gada da Vida ». Alors en fait, c'est « In the Garden of Eden » qu'il n'arrive pas à prononcer à cause de la drogue. Ce titre est publié sur le 33 tours du même nom. C'est une composition très sombre, longue de 17 minutes, avec des séquences d'orgue très lugubres et des riffs de basse joués en mode mineur. Alors le succès sur scène et puis commercial est immédiat. Iron Butterfly donne une version très personnelle du rock californien. L'album est immédiatement disque de platine et ce thème entre à part entière dans l'histoire du rock naissant. La version originale dure 17 minutes et pour le format de l'émission, j'ai préféré vous faire découvrir une version single, calculée pour les radios plus courte. Iron Butterfly ouvre cette quatrième saison de 15 on the Rock, leur tube In the Gada da Vida.
Don't you know that I'm loving you? In a god of a Vida, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a god of Vida, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of Vida, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hat? Thank you.
Dans 15 on the Rock, j'essaie aussi de vous faire découvrir des groupes souvent méconnus en France. Alors méconnus ici parce qu'ailleurs, ces musiciens sont souvent adulés, je pense au Japon, en Australie et partout ailleurs en Europe. C'est exactement le cas des Gallois de Cardiff, le groupe Budgie. Budgie, la perruche en anglais. Et c'est l'oiseau emblématique qui figure sur toutes leurs pochettes de disques. Budgie enregistre dès 71 avec un album éponyme sorti chez MCA. Un groupe qui dure une dizaine d'années avec d'excellentes choses tout au long des années 70. Citons, entre autres, le magnifique Never Turn Your Back to a Friend, avec un titre mythique, vraiment mythique, je dis bien, qui ouvre cet album en 73. Ce morceau, c'est Bread Fan. Le morceau devient, à proprement parler, véritablement légendaire. Bread Fan est l'un des titres qui aura le plus d'impact dans l'histoire du hard et influencera des groupes comme Soundgarden, Iron Maiden et tant d'autres. Metallica sont des fans absolus de Budgie et de Bread Fan. Et c'est Bread Fan qu'ils enregistrent en 88 en reprise. Leur batteur, Lars Ulrich, déclare à propos des Gallois de Budgie, je le cite, « C'est l'un des groupes qui m'a le plus influencé. C'est la bande qui m'a fait vraiment comprendre ce qu'est le heavy rock. Ce qu'ils faisaient était si différent de tout le reste à l'époque. Dès que je les ai entendus, j'ai vu ce qu'ils avaient de nouveau en eux. » Bread Fan est un morceau vraiment incroyable. Avoir la chance de le reprendre, c'était tout un monde pour nous. J'espère que Budgie a vécu cette reprise comme une vraie justice qu'on leur rendait. Allez, c'est notre séquence Les Hymnes du Rock, ces thèmes éternels qui ont fait l'histoire de cette musique. Et c'est Budgie avec le très beau Bread Fan. We'll be right back. Alors, j'avais pas prévu initialement de doubler un groupe aujourd'hui, mais écoutez, j'ai pris tellement de plaisir en réécoutant Brett Fan de Budgie que je viens de décider de faire ma séquence soft rock avec eux encore. Je reste sur leur 33 tours de 73, Never Turn Your Back to a Friend, et j'extrais le dernier thème de l'album, c'est Parents, un soft rock très mélodieux qui permet entre autres au bassiste du trio gallois Burke Shelley d'exprimer toute sa musicalité. Notre séquence soft rock, donc Budgie en 73 et le morceau Parents.
Take me.
On revient vers un rock plus classique, plus carré, moins lyrique et moins inspiré. Au début des années 70, né avec Sweat et T-Rex, un courant qu'on appelle le glam rock ou encore le glitter rock. Bowie en sera aussi l'un des adeptes. Le son annonce le punk. Et l'image devient très importante pour ces groupes. On recherche l'excès dans un dandysme de strass, de paillettes et d'androgynie. L'idée est encore celle d'un retour à un rock très spontané, en opposition totale avec les longues plages qu'on avait dans les vinyles de psyché de l'époque. Le credo du glam, c'est des morceaux courts, rapides et dansants. L'un des représentants de ce mouvement, c'est Slade, des Britanniques de Wolverhampton, qui couvrent deux décennies, de 69 à 87, avec plus ou moins d'inspiration et de talent. Morceau archétype du glitter rock anglais du milieu des années 70, Slade en 75 avec When the Chips Are Down.
I got a snappy trigger finger that's ready to squeeze. I got an icy cold stare that'll make you
Notre séquence rock du Sud à présent. Dans la lignée de Lynyrd Skynyrd ou de Molly Hatchett, beaucoup de groupes ont cherché à produire un son boogie blues avec des riffs gras et carrés très lourds, vecteur d'une vraie urgence de vivre. C'est exactement le cas de l'éphémère band The Boyz, B-O-Y-Z-Z, formée en 77, qui produit un rock américain du Sud très nerveux. Du Southern, qui vise un auditoire de motards, comme le revendique la pochette de leur premier album de 78, Too Wild to Tame. Elle évoque carrément Marlon Brando dans le célèbre film L'équipée sauvage, en motard donc. Le groupe ne compte pas moins que 6 musiciens avec 3 guitaristes, comme souvent dans le rock du Sud. Malgré toute la puissance de leur musique, leur énergie, Boyz ne rencontre pas le succès espéré. Alors ils changent de nom en 82 pour essayer de se relancer. Ils deviennent Bzz, B avec 2 N, imprononçable, et sortent leur deuxième LP, Get Up. Puis ils splittent pour rejoindre chacun de leur côté d'autres formations. Notre séquence rock du Sud, les Américains de Boyz en 78 et Too Wild to Tame, trop sauvage pour être apprivoisé. We'll be right back. Après les rives sud du continent américain, on file à présent vers le Grand Nord pour découvrir le Canada et son musicien phare de ces années-là, Frank Marino, avec les acolytes de son groupe Mahogany Rush. Alors la presse a tout écrit sur cet exceptionnel virtuose à qui l'on a souvent reproché d'être un vulgaire copiste de Hendrix. Des journalistes, écoutez bien, en mal de sensationnel, avaient même écrit que Frank Marino avait été hospitalisé un jour sans aucune connaissance de la guitare et s'était réveillé un beau matin à sa convalescence en jouant directement comme Hendrix. Un mythe complètement grotesque. De choses demeurent, sans que ce soit en rien condamnable, Marino adore son maître à jouer, Hendrix, et reconnaît sans difficulté être très influencé par le génie noir américain. Et autre vérité, Marino a dû, dans sa jeunesse, à maintes reprises, demeurer en clinique pour soigner son addiction à moult substances prohibées. Au résultat, au bout d'un travail acharné, n'en déplaise à la presse, un travail acharné sur son manche de guitare, le Canadien est devenu un grand de la six cordes. Depuis son premier opus de 71, Maxum, jusqu'au début des années 90, il a toujours délivré un rock puissant. Et il est vraiment charismatique en live. Alors j'ai tiré pour vous un thème très hendrixien justement de l'album World Anthem, publié chez CBS en 76, c'est In My Ways, Frank Marino et ses deux potes du Mahogany Rush, du hard canadien sur 15 on the Rock. On demeure au Canada avec notre géant de la scène rock, aux côtés entre autres de Bachman Turner Overdrive, ce sont les natifs de Toronto, Rush. Rush se crée en 69, mais n'entre en studio qu'en 73 pour un premier 33 tours. Cet album ne sortira finalement qu'en 74. Alors après avoir publié dans un label qu'ils avaient créé eux-mêmes, Moon Records, le trio bascule chez Mercury, un groupe plus puissant, l'année suivante, et le son bascule dans un heavy blues rock qui flirte avec les résonances australiennes d'AC/DC. Puis étouffé dans un carcan un peu simpliste dans cette musique, Rush ouvre son répertoire et aborde des ambiances plus symphoniques, jazzy et progressives qui leur permettent de développer toute leur créativité et une signature plus personnelle. Il y a 10 très bons disques jusqu'en 81, puis la bande bascule ensuite dans une musique un peu plus technologique et qui perd de l'intérêt. Nous, on reste dans leur bonne plage. J'extrais de Permanent Waves, sorti en 80 et qui atteint cette année-là la 4e place dans les charts US, le thème Free Will. Vous êtes sur Radio MDM, c'est François au micro pour 15 on the Rock, le meilleur du hard et du rock entre 68 et 83. On est en plein dans notre période avec les Canadiens de Rush, Free Will en 1980.
Now
Alors vous connaissez l'émission, je vous propose systématiquement un live dans 15. Parfois, on a du bol dans la vie, je vais vous raconter la mienne. J'ai eu la chance d'assister très jeune à un concert de l'un des inventeurs du rock, Fats Domino. Et j'ai aussi eu la chance, c'est moins heureux, de voir le dernier concert de Johnny Winter en 2014 en France, avant qu'il ne décède en Suisse quelques jours plus tard. Alors on va se souvenir de ces deux légendes du rock, Fats Domino et Johnny Winter. En 79, au Rock Palace Festival d'Essen en Allemagne, Winter reprenait un thème cher à Fats Domino, du pur rock'n'roll, vous allez entendre, sans fioritures, c'est I'm Ready. C'était un pays qu'on appelait encore, en cette soirée d'avril 79, la République fédérale d'Allemagne, des temps antiques donc, n'est-ce pas, jeune ingénieur du son Arnaud, il n'a pas connu la RFA et l'RDA, lui, évidemment. Donc, c'est Johnny Winter qui reprend Fats Domino, I'm Ready. Puis, vous en avez l'habitude désormais, on finit l'émission avec notre rubrique des pépites oubliées, des morceaux souvent très intéressants, écrits par des groupes éphémères qui ont disparu corps et bien dans les méandres de l'oubli. C'est le cas de Mickey Finn, qui enregistre en décembre 67 un album qui sort au tout début de notre période, donc début 68. Mickey Finn est un groupe de mods londoniens dans lequel jouera très brièvement un certain Jimmy Page, futur fondateur de Led Zeppelin bien sûr. Mickey Finn grave quelques singles dans d'obscures maisons d'édition, puis signe chez CBS. Le chanteur a une voix un peu à la Phil Lynott de Thin Lizzy. Il y a un guitariste, bien sûr, un clavier, qui intégreront plus tard, dans le milieu des années 70, The Heavy Metal Kids, un groupe un peu plus célèbre. Mais au début 68, sort l'album excellent, Garden in My Mind, qui malheureusement n'a eu qu'un écho limité en Angleterre. C'était pourtant pas mal du tout, vous en jugerez vous-même. Voilà, la première de 15 on the Rock pour 2023-2024 se termine. On attaque ensemble déjà, je vous le disais en début d'émission, une quatrième année de rock et de hard sur Radio MDM. Je remercie Arnaud, la technique. C'était François au micro. Bonne rentrée à tous. N'oubliez pas, restez surtout rock avec 15. Vous n'aurez pas à choisir entre Pomme et Juliette Armanet. Salut les amis.